Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser mes projets.
Je vous réponds qu'il y a de nombreuses solutions de financement pour tous vos projets en agence Carrefour Banque ou sur carrefour-banque.fr. Alors si vous voulez changer de voiture, faire des travaux, voyager, profitez-en.
Carrefour Banque et Assurance. Offre de crédit réservée aux particuliers majeurs, délai légal de rétractation de 14 jours sous réserve d'acceptation par Carrefour Banque RCS numéro 313-811-515, numéro Orias 07031. Les informations liées au statut d'intermédiaire en opération de banque sont indiquées au service financier Carrefour ou à défaut à l'accueil de votre hypermarché.
Sur un bateau dans les Antilles françaises. Et puis le mur jaune était trop haut. Le PSG battu hier soir à Dortmund 1-0 en Ligue des Champions. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à vous baigner dans la Seine? Ce matin, c'est clair, vous dites non à 91%.
On peut en parler ensemble au 32-10 et on peut évidemment parler des inondations, des orages. N'hésitez pas, hein, si vous êtes directement concerné, vous faites le 32-10.
RTL Matin.
Les vigilances oranges sont donc levées, l'épisode est terminé, nous disait Marina à l'instant. Ces violents orages de grêle qui se sont abattus dans la soirée sur la Bourgogne, l'Île-de-France, jusqu'au nord de la Normandie. Des avions qui devaient atterrir à Roissy et Orly ont été déroutés. Et cette image dans Lyon, des grêlons aussi gros qu'une balle de golf dans la région de Chablis, connue bien sûr pour son vignoble. Daniel Etienne Défait. Et vigneron, il est ce matin désemparé.
C'est une catastrophe. Vous voyez ce que c'est qu'une balle de pétanque. Vous voyez ce que c'est qu'un cochonnet. Bon, ben, il y a eu des grêlons entre le cochonnet et la balle de pétanque. Les vignes, on vient de faire un tour à la lumière des phares. Le cœur du Chablis historique, moi, je l'estime à 60% détruit. Mes voisins qui étaient à côté de moi me disent « Non, Daniel, t'es optimiste, c'est plutôt 85%. » Pour les vignes, ben, on va certainement faire un traitement pour cicatriser. Mais bon, là, je pense qu'il y a... la récolte, elle est foutue pour cette année. Mais on va avoir perdu aussi les bois de taille, donc les bois pour l'année prochaine. Donc on va perdre plus qu'une année. Quoi.
Voilà, ce vigneron de Chablis, joint par Valentin Boissé.
85% du vignoble détruit. On sera avec un autre vigneron de Chablis dans quelques minutes dans RTL Événement. On est évidemment à vos côtés ce matin. Et si vous, derrière la radio, vous êtes concerné, appelez-nous dès maintenant au 3210 pour témoigner.
Dans le reste de l'actualité, la première nuit de couvre-feu pour les jeunes de moins de 13 ans à Nice, qui suit l'exemple d'autres villes pour lutter contre la délinquance. Ce couvre-feu sera en vigueur tout l'été.
Emmanuel Macron reçoit ce matin à l'Élysée les syndicats agricoles.
Après les nouvelles annonces du gouvernement le week-end dernier pour les agriculteurs et alors que le projet de loi d'orientation agricole est examiné depuis mardi en commission à l'Assemblée nationale, le chef de l'État leur avait promis un rendez-vous lors du salon de l'agriculture. Bon, depuis, il s'est passé un peu plus d'un mois. Pourquoi ça a autant traîné, Virginie Garin?
Eh bien, les syndicats voulaient du concret, commencer à voir vraiment dans les fermes les premiers effets des 67 mesures promises par le gouvernement depuis février. Et ce qui a permis de fixer enfin ce rendez-vous, ce sont les 14 supplémentaires annoncés vendredi dernier, avec enfin une solution pour le calcul de la retraite des agriculteurs, le début de l'examen de la loi qui aide les jeunes à s'installer, à simplifier les normes. Lundi, un plan sera annoncé pour assouplir l'usage des pesticides. 500 millions d'euros d'aide ont commencé à être versés au bio, à l'élevage, à la viticulture et puis ont été rajoutés 50 millions spécialement pour les départements de Méditerranée pour les aider à s'adapter au réchauffement et changer leur agriculture. Donc il y a encore beaucoup de méfiance, mais pour les syndicats, les manifestations ont vraiment permis d'obtenir de quoi redonner un peu d'espoir aux agriculteurs. Il restera à l'automne la révision de la loi Egalim pour mieux protéger leurs revenus.
Merci Virginie Garin, spécialiste agriculture ici à RTL.
Et à 6h15, on sera avec Véronique Lefloc, la présidente de la coordination rurale, qui sera avec nous en direct et dans ce studio.
210 000 personnes ont défilé hier en France selon la CGT pour les manifestations du 1er mai. 121 000, dit le ministère de l'Intérieur. On retiendra des tensions dans certains cortèges à Paris ou encore à Nantes. À Saint-Étienne, le candidat de la gauche aux européennes, Raphaël Glucksmann, lui a été empêché de rejoindre la manifestation. Il a été pris à partie par des manifestants. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que le premier grand débat de ces élections européennes. Il aura lieu sur RTL dimanche avec les 7 principales têtes de liste à partir de midi sur notre antenne mais aussi sur Paris Première et la chaîne parlementaire.
Il est 5h04 sur RTL. L'équipage d'un bateau est toujours recherché ce matin dans les Antilles françaises.
Au large de l'île de Saint-Martin, tous les occupants ont pris la fuite. Ils transportaient à bord, écoutez bien, 1,8 tonne de cocaïne. Voilà ce qu'a découvert le colonel Maxime Huitzer et ses équipes.
un bateau assez profilé, très bas sur l'eau, avec à son bord une quantité importante de produits stupéfiants. Il n'y avait plus personne aux abords du bateau. J'ai rempli un camion de gendarmerie où je mets 8 gendarmes mobiles et ben je l'ai rempli avec de la matière, de la cocaïne en fait. Donc c'est effectivement des quantités assez impressionnantes. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 20 € le gramme de cocaïne dans la Caraïbe. On va tout de suite se retrouver pas loin de la quarantaine de millions d'euros.
Et c'est un record à Saint-Martin, 1,8 tonnes.
Moi, de ce que j'ai entendu, ça me semble être un record. Et en règle générale, on est plus entre l'ordre de la centaine de kilos. Ça me semble être effectivement une belle prise.
Un propos recueilli par Hermine Leclèche pour RTL. La France, désignée pour la 5e année consécutive pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, selon le baromètre annuel du cabinet EY, la France devant le Royaume-Uni et l'Allemagne.
La France très attractive, on verra pourquoi précisément tout à l'heure avec Martial You dans la tablée du petit matin, 7h15.
À retenir de l'actualité à l'étranger, les États-Unis qui accusent cette nuit la Russie d'avoir utilisé un agent chimique contre les forces ukrainiennes, ce qui est une violation de la convention sur l'interdiction des armes chimiques.
Et puis voilà, les supporters sont frustrés ce matin, mais ce n'est pas terminé pour le PSG quand même, hein, en Ligue des Champions.
Les Parisiens se sont inclinés hier soir à Dortmund, 1-0 au match aller des demi-finales. Les Allemands ont été plus forts, Philippe Sanfourche.
Oui, le mur jaune était un peu trop haut, un peu trop solide et un peu trop bruyant hier soir à Dortmund. Paris a globalement déçu, manquant de maîtrise et de précision. Plusieurs grosses occasions ratées quand les Allemands, eux, ont su trouver la faille une fois dans la défense emmenée par Marquinhos.
Je pense qu'on a pris un but aussi dans un détail qu'on avait travaillé. Il fallait pas le prendre un but comme ça, la profondeur. Et c'est des détails qui font une différence dans une demi-finale.
Détail et manque de personnalité au moment d'attaquer la rencontre. L'entraîneur Luis Enrique n'a pas su libérer totalement ses joueurs de la pression d'une demi-finale.
Vous savez, les joueurs ne sont ni des machines ni des robots. Oui, en première période, on a manqué d'identité dans cette atmosphère. On n'a pas été assez incisif offensivement.
Paris enregistre donc une 4e défaite cette saison en Ligue des Champions, mais reste en vie avec un seul but à remonter mardi prochain au Parc des Princes. Un but de retard, comme face à Barcelone en quart de finale. Au PSG donc d'emballer une nouvelle fois le match retour.
Philippe Sanfourche, envoyé spécial à Dortmund pour RTL. Ce soir, demi-finale cette fois en Ligue Europe, Marseille face à l'Atalanta Bergame. Vous le vivrez évidemment sur RTL, 20h-23h, émission spéciale autour d'Eric Silvestro. Et puis sur M6 pour les images, le coup d'envoi c'est à 21h.
Tom, 5h20, on parle de quoi ce matin?
Alors ce matin ça sera en chanson, Jérôme Marina. Je vais vous parler de ces chanteurs qui détestent leur propre tube, qui ont pourtant fait un énorme carton.
C'est tout à l'heure à 5h20, comme tous les jours, on vous en parle avec vous. Tom Lefèvre, vos messages, Marina.
Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos photos de paysages sous la pluie ou sous la grêle. Il y a par exemple Graine Fémo qui est à hier soir en Seine-et-Marne et qui nous a mis une photo justement de la grêle en à peine 5 minutes. Il y a eu pas mal de grêle.
Un jardin tout blanc.
Il suffit de peu de temps pour avoir ce mauvais temps. Gros orage de grêle hier soir à Vitou en Côte d'Or, c'est notre fidèle Jeanne. Cela a duré 5 minutes pour elle aussi. Voiture abîmée. Là aussi, elle a mis une photo de l'herbe remplie de grêlons, vraiment de la taille d'une balle de golf. Ça a dû bien faire des dégâts en effet. Et puis, du côté de vos messages par SMS, nous avons Pascal de Corbigny dans la Nièvre. 12 degrés avec un ciel couvert. Des nuages et 11 degrés à Compans en Seine-et-Marne. C'est Jean Noël qui nous envoie l'info. Nous avons à La Rochelle des averses et Cadouille du Chaud qui nous envoie l'info. C'est son pseudo. Et puis on va terminer par ce message, ce mail de Sally. Magnifique chanson choisie par votre auditrice Sally à 4h50 qui habite les Philippines, qui nous a fait découvrir un artiste philippin, Freddy Aguilar, avec sa chanson Anak, que l'on écoute.
Nung isilang ka sa mundong ito.
C'est un mail de Nathalie.
Voilà, c'est ça. Voilà. Elle aurait pu s'appeler Sally aussi.
Non, mais c'est un mail de Nathalie.
En tout cas, cette chanson, elle est très sympa. Il est 5h09 sur RTL à suivre dans vos petits matins. RTL événement dans 5 minutes. On va revenir sur les orages qui ont frappé fort en Bourgogne, en Ile-de-France hier soir. Beaucoup de dégâts dans les vignobles de Chablis. On sera en direct d'ailleurs avec un vigneron. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler si vous avez subi directement ces intempéries. Le standard vous est ouvert. Vous nous appelez au 3210. Il y a aussi bien sûr les SMS 64900 code matin et le groupe Facebook où vous pouvez, comme on vient de le voir, poster vos photos. Au programme également, le procès de Donald Trump vu de l'intérieur. À New York, l'ancien président qui s'est octroyé une petite pause meeting hier dans le Wisconsin se rend presque tous les jours depuis des semaines dans une salle d'audience vieillissante au chauffage défaillant. Récit assez drôle et croustillant de USA Today à retrouver, ce sera après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Vous êtes perdu, Klaus?
Oui, je pense qu'on aura tous à cœur absolument de plonger dans la scène.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
La visioconférence tous les soirs à 18h37 avec une histoire de pilule hier soir.
En Allemagne, un homme a été arrêté avec 4300 pilules pour l'érection.
Oui, et il s'est fait gauler.
Oui,
je l'ai.
Vous l'avez? Bah oui, bah vraisemblablement c'était le but. Oui, c'est une actu de jour férié, hein. Je suis désolé,
je fais exploser.
Non mais 4300 pilules, je sais pas quel était son projet. Est-ce qu'il voulait se mettre au baseball sans investir dans une batte? Je ne sais pas. Bon après, sans doute c'était pas pour lui.
Non, ça fait rire Isa.
Mais oui, c'est parce qu'elle a l'image. Non mais l'enquête se poursuit pour savoir quelle était la destination de ce stock énorme. Bon, on est en Allemagne, donc on peut peut-être parier sur le mari d'Angela Merkel. Qui sommes-nous pour juger? Oui, c'est une blague un peu old school.
Mais
j'aime bien, elle est mignonne.
C'est vilain.
Alex Viseur, que vous retrouvez tous les soirs avec Julien Cellier et toute son équipe à 18h37.
RTL.
On jette un coup d'œil à vos journaux maintenant, avec deux images, deux ambiances. La une du Parisien, d'abord, avec un Mbappé grimaçant, les mains sur la tête, frustré, après la défaite du Paris Saint-Germain hier soir à Dortmund, 1-0 en match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Et puis l'autre image, comme en miroir, c'est la une de la Marseillaise. Une conquérante avec des joueurs de l'OM volant presque sur le terrain. Et ce titre, l'Olympique, se doit d'être magnifique. Oui, puisque l'OM affronte ce soir les Italiens de l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. On verra d'ailleurs quelle sera la photo demain matin à la une de la même Marseillaise. Ce sera intéressant. Encore 500 emplois à saisir chez Amazon. Ça, c'est la une du courrier Picard. 2000 en tout en France, dont 500 donc dans les Hauts-de-France sur ces plateformes de Senlis, Bov et Lovain-Planck. Pourquoi vos factures ne baissent pas? Ça, c'est l'enquête à lire dans l'Ardennais ce matin. Gaz et électricité, leurs factures flambent malgré leurs efforts, écrit le journal, qui a demandé à plusieurs lecteurs d'ouvrir leur compte. Michael, par exemple, il est père de famille, il a baissé d'un tiers sa conso électrique, il paie 50% plus cher. Dossier spécial dans le journal qui fait répondre à chaque fois des experts à chaque cas, car évidemment il y a des réponses pratiques qui sont apportées, c'est à lire dans l'Ardennais ce matin.
RTL, le podcast du jour.
Avec les voix du crime ce matin et le témoignage d'une mère qui se bat pour que la lumière soit faite sur le meurtre de sa fille. En août 2018, Caroline Penado, 34 ans, est tuée par son propriétaire dans l'Oise. Deux jours après, l'homme se suicide. Depuis, Marie-Christine Lenaine, la maman de Caroline, demande que justice soit faite pour enfin savoir comment ces deux catastrophes ont pu arriver. Elle fait part de ses interrogations au micro de Thomas Proutot.
Il faut savoir qu'il avait été mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Donc, cette arme, quand est-ce qu'il se l'est procurée? Auprès de qui? Est-ce qu'il avait fait état de ses intentions mortifères? Il faut savoir qu'avant de tirer chez lui, je vous disais que c'était Fort Knox, il y avait des caméras. Avant de tirer sur ma fille, il a quand même pris le temps d'éteindre ses caméras. Il a pris le temps de la cacher, de commencer à nettoyer et d'aller rallumer les caméras. Donc, je veux dire, on a ces enregistrements, il y a le timing. Je veux dire, s'il n'avait pas l'intention de tirer, pourquoi avoir éteint ces caméras?
Aujourd'hui, on ne sait pas d'où venait cette arme.
Non.
Alors, pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez « Les voies du crime ». Votre rendez-vous info dans un court instant, on va reparler des orages évidemment qui ont frappé notamment la Bourgogne. Nous sommes avec un vigneron de Chablis. Merci d'écouter RTL, il est 5h14.
RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes. Programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et avant de retrouver notre invité, coup d'œil à votre journal de 6h30 avec l'événement de 5h30, pardon, avec l'événement foot ce soir, à savoir la demi-finale aller de Ligue Europa au Stade Vélodrome. Marseille affronte les Italiens de l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi 21h, match à vivre sur RTL et sur M6. À Marseille, des supporters sont arrivés de toute la France, comme Julien de Tours.
Il faut qu'ils nous fassent rêver. On a eu une saison très compliquée. C'est vraiment super important pour toute la ville, mais il y a des supporters de partout dans la France. Là, j'ai croisé des gens d'Avignon, j'ai croisé des gens de Lille, de Paris, il y en a de partout. C'est, la ville est remplie et ça va être dingue.
On y revient dans le journal de 5h30.
RTL Matin.
Les orages ont frappé fort hier soir l'Île-de-France, la Normandie, mais aussi évidemment la Bourgogne. C'est là que ça a commencé à claquer, hein. Vous me le confirmez, Marina.
Exactement, hein, voilà. Bourgogne, ensuite en remontant jusqu'à la nord de la Normandie et la Picardie.
Et nous allons accueillir à présent un vigneron de Chablis à Maligny, précisément dans l'Yonne. Bonjour Olivier Savary.
Bonjour.
Bonjour.
On entendait un de vos confrères dans le journal il y a quelques minutes dire que 85% du vignoble avait été détruit. Quel est l'état de vos terres ce matin? Dans quelle situation vous vous trouvez?
Alors, je sais que hier soir, donc l'orage a été vraiment très très violent, plus particulièrement sur la commune de Chablis, mais dans tout Chablisien. Avec beaucoup de vent et des épaisseurs de grêle assez impressionnantes. On va faire le bilan ce matin parce que hier soir c'était vraiment très compliqué, il y avait beaucoup d'eau, on pouvait pas rentrer dans les parcelles, mais je pense que les dégâts sont très conséquents.
Donc votre récolte a été touchée?
Ah oui, oui, ah oui, oui, les récoltes sont bien entamées et j'espère que il va y rester par-ci par-là parce que mais ça a été beaucoup atteint, oui.
Vous n'étiez pas préparé à cet événement?
Ah, aussi, on avait eu des alertes préfecture hier dans l'après-midi, mais on a des canons à grêle qui nous permettent de diviser la grosseur des grêlons. Donc je pense que ceux-ci ont bien fonctionné puisque les grêlons n'étaient pas très très gros. Mais très nombreux et donc les dégâts sont présents quand même.
Comment ils fonctionnent ces canons à grêle, expliquez-nous.
On envoie dans les nuages du iodure d'argent et le but c'est de faire des points d'accroche et pour que les grêlons soient petits et ne puissent pas s'agglomérer entre eux et tombent mais en grand nombre mais petits.
Oui, moins épais, voilà. En fait.
Moins épais. Et donc, ça fonctionne, mais ça ne supprime pas la grêle, ça la divise seulement.
Monsieur Savary, il y a quelques jours, vous aviez eu le gel. On en a parlé également sur RTL, où on avait utilisé les bougies, etc.
Oui.
Là, la grêle, les orages, ça fait beaucoup.
Oui, pour une même année et en une dizaine de jours, oui, ça fait beaucoup. Et puis c'est surtout une année de travail qui est ravagée et puis la récolte et puis les conséquences financières derrière, forcément.
Comment ça se passe justement? Vous avez l'assurance dans ces cas-là?
Alors on a une assurance grêle, oui. Pas gel, mais grêle. On a donc ça va forcément fonctionner. On va voir à quelle hauteur les experts vont passer, mais voilà, on verra.
Le gel, pour revenir à cet épisode il y a une dizaine de jours, il avait affecté déjà vos récoltes?
Oui, mais un petit peu, pas partout. On avait des moyens de protection, donc on pouvait dire que c'était acceptable encore.
On avait des parcelles
touchées, mais on avait des parcelles sauvées, donc
ouais. Voilà. Et les parcelles touchées, en pourcentage, vous savez à peu près combien?
Alors nous, sur Maligny, ça allait de 10 à 100%.
Ah oui, quand même, juste à 100%.
Ah oui, il y a des quartiers, ouais. des quartiers de Maligny qui étaient jusqu'à 100%, oui.
Et là, ce matin, vous n'avez pas de visibilité encore sur les dégâts suite aux orages?
Non, hier il y avait tellement d'eau avec, ouais. On s'est pas aventuré trop. On va faire les constats vraiment ce matin.
Vous êtes habitué à ce genre d'épisode parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a ces alternances de gel, d'orage au printemps. Est-ce qu'on s'habitue à ça?
Non. Non, pas franchement. On s'y attend, mais non. Mais depuis 2016, on a des récoltes très très aléatoires. Des épisodes de plus en plus délicats entre le gel et la grêle. Donc depuis 2016, on peut dire que les récoltes sont compliquées.
C'est ce genre de phénomène s'accélère. Je ne sais pas quel âge vous avez. Si vous avez un peu de visibilité aujourd'hui, vous voyez, c'est pire, c'est plus difficile aujourd'hui d'être vigneron.
Ah oui. Oui, je pense que c'est plus difficile depuis 2016. Je pense que la situation se dégrade et c'est plus chaotique que les années d'avant. Oui.
Les intensités sont plus fortes, peut-être.
Oui, ça c'est sûr.
Et après, évidemment, il y a les conséquences financières, il y a les conséquences sur le moral aussi. Vous avez dit, c'est une année de récolte qui est fichue. Comment vous vivez ça?
Ah ben alors selon les personnes plus ou moins bien. Je vois mon épouse par exemple vit très mal, moi un tout petit peu moins mal parce que je me dis que là il faut continuer, il faut absolument continuer, mais c'est ravageur quoi. C'est voilà, tout on repart de zéro à chaque fois quoi.
Oui, parce que quand vous préparez votre récolte, vous pensez au fait qu'elle sera éventuellement détruite par les intemperies.
Ah oui. On sait que le fruit de notre travail est dehors en permanence, et donc on sait que ce qui vient d'arriver hier soir, par exemple, on en est conscient quand même.
On entend votre émotion et vous allez tout à l'heure aller sur vos parcelles, regarder les dégâts et vous allez faire ça avec des collègues, vous serez accompagné. Comment on prépare ça?
Oh ben on va sûrement croiser des collègues, oui, moi je vais y aller avec mes fils puisque maintenant mes fils ont repris le domaine et moi je suis à la porte de la sortie comme on dit. Mais oui, on va les constater, puis on va certainement croiser des collègues, et puis on va constater les mêmes choses.
Vous parliez de vos fils qui vont reprendre la suite. Tous ces problèmes climatiques, là, ça les empêche pas de prendre la suite ou ils sont partants quand même?
Ah ben, ils sont revenus avec moi il y a maintenant une dizaine d'années.
Ouais.
Ils sont dedans. Donc maintenant, j'espère qu'ils vont simplement avoir le courage de continuer, c'est tout. Voilà, parce qu'il y a des matins, c'est pas facile.
Ah oui. Voilà. C'est difficile. Marina, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres épisodes orageux prévus comme ça dans les jours qui viennent du côté de Chablis?
Mais oui, malheureusement, à partir de dimanche, alors ce ne seront pas des impacts, des gros impacts comme on a eu là aujourd'hui, mais il y aura un risque orageux. Alors, pour la Bourgogne, dimanche, parce que dès demain, ça va revenir, mais par l'ouest du pays. La Bourgogne ne sera pas concernée, mais dimanche, on attend une perturbation pluvieuse orageuse. Malheureusement, on n'a pas fini, oui.
Merci beaucoup, Monsieur Olivier Savary, d'avoir témoigné ce matin en direct, d'avoir pris le temps de nous raconter un petit peu ce qui vous est arrivé cette nuit. Bon courage à vous.
Et on croise les doigts pour que vous découvriez
le moins de dégâts possible.
Exactement.
Voilà, ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à témoigner si vous avez été touché, à la fois comme professionnel ou comme particulier par ces orages. Vous faites le 32-10. Merci Monsieur Savary. Bonne journée, bon courage.
Merci.
À bientôt. Il est 5h23 sur RTL.
Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. RTL Matin, on vous en parle.
C'est votre rendez-vous tous les jours à cette heure-ci pour voir ce dont on parle sur les réseaux sociaux ou dans la presse. On vous en parle et ces dernières heures, Tom Lefebvre, on parle de ce concert géant que prépare Madonna.
Oui, absolument, ce sera le plus grand de sa carrière, voilà ce qu'on dit. Il sera gratuit sur la plage de Copacabana au Brésil. Ce sera samedi, on attend 1,5 million de personnes. Enfin, je dis moi je n'y serai pas personnellement. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est 1,5 million de personnes. Ils pourront chanter ça par exemple. Holiday. Eh bien, ça vous fait chanter, ça vous fait danser, Marina. Ben, figurez-vous que ça ne fait ni chanter ni danser Madonna. Figurez-vous qu'elle ne supporte plus cette chanson.
Allons bon.
Bon, en même temps, cette chanson a 40 ans, donc ça fait 40 ans qu'elle doit la supporter. Mmh. Et comme Like a Virgin, la reine de la pop ne veut plus la chanter. Elle l'a dit dans une interview. Sauf si derrière il y a un joli chèque, elle dit, bon, je pense qu'elle exagère un peu quand même. Si quelqu'un me paye 30 millions d'euros, j'accepte de la chanter.
Ah oui,
c'est peut-être un petit
ça
peu
ça fait cher les vacances.
Beaucoup, je pense qu'elle exagère quand même. Mais voilà, en fait je suis tombé sur pas mal d'interviews ces derniers temps de chanteurs ou d'interprètes qui détestent leur succès, qui leur ont pourtant fait cartonner, qui leur ont aussi rapporté de l'argent. Vous voulez d'autres exemples?
Ah bah oui.
Céline Dion par exemple. Le titre Marina c'est
My heart will go on.
Absolument.
Oh, quel accent.
Succès planétaire, c'est la musique du film Titanic. Eh bien, c'est son mari, René, qui l'a poussé à chanter. Lui, il a senti qu'il y avait un tube. Bon, il a bien fait. Mais elle, elle aimait pas la chanson au début. Et ni aujourd'hui, d'ailleurs, elle explique que toujours elle l'aime pas. Et même le réalisateur du film Titanic, James Cameron, il y croyait pas. Bon, pourtant, ça s'est quand même écoulé à 18 millions de ventes. Ils n'avaient pas vraiment le nez creux.
Bon, vous avez d'autres exemples ?
Oui, dans un autre registre, Depeche Mode, 1984. Just can't get enough.
Ah bah ouais.
La chanson est trop niaise, selon le groupe. Voilà ce qu'ils disent.
J'adore le groupe, mais j'aime pas cette chanson non plus.
Ah bah vous voyez. Ouais. Loin des ambitions musicales, voilà ce qu'ils disaient à l'époque. Et aujourd'hui, ils trouvent aussi que la chanson a mal vieilli.
Ouais.
Bon bah si vous êtes d'accord Marina, tant mieux. et en tout cas ils sont nombreux les artistes à se lasser de leur succès. Une francophone, Lara Fabian, vous vous souvenez de son premier tube?
Tout, non.
Tout.
Oui exactement, c'est ça. J'espère que c'est pas prémonitoire de notre histoire tous les trois, Jérôme.
Non, vous inquiétez pas, Jérôme.
Eh bien, elle ne le chante plus sur scène. Oui, vous avez même oublié mon nom. Elle le chante plus sur scène parce qu'elle
a déjà tourné la page. Non, vas-y.
Elle arrive plus à rentrer dedans. Elle aime plus cette chanson. Ouais. J'espère qu'un jour je ferai un concert avec les chansons que j'aime vraiment et pas que des hits. Voilà ce qu'elle dit. Elle supporte plus. Vous en voulez un dernier?
Ah oui.
Non, et là on dit non.
Bon, bah c'est toi, ça.
Oui.
Non, mais allez-y. En plus, ça va vous plaire, Jérôme.
Oui, parce que je connais celle-là aussi.
Ouais, celle-là. Radiohead. Creep, 1993, un titre qui a tout emporté sur son passage à sa sortie. Bon, moi j'étais pas là pour le voir, mais apparemment c'est vrai. On leur a tellement demandé de la chanter, cette chanson, que ça les a saoulés au point qu'ils ne l'ont très très peu interprétée entre 98 et 2006. Ils avaient fait une overdose à tel point qu'ils ont surnommé leur propre titre Crap.
Alors, ça veut dire crotte.
Voilà, exactement. La traduction n'est pas très jojo.
Merci beaucoup, Tom. RTL. Un extrait de vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, avec écouter cet auditeur pour Yoann Rioux.
Thierry, lui, veut défendre Yoann Rioux. Il dit c'est un scandale, toutes les moqueries dont fait l'objet Yoann.
C'est vrai.
C'est bien ça?
Ah, exactement, oui, ça me fait mal. À force.
Mais c'est de l'amusement, mais c'est le premier à faire, c'est lui. Hein.
Vous avez même décidé de fonder le CSYR.
Le CIR, oui.
Le CIR, comité de soutien à Yoann Rioux.
Exactement.
dont vous serez président à vie et pour l'instant le seul membre actif. Rien à ajouter, Thierry, à propos de Yoann Rioux?
Je pense que c'est vrai qu'il a l'air de s'amuser, mais je pense qu'il comprend pas exactement ce qui se passe autour de lui.
Avec des amis comme vous, alors.
À sa chambre, dans les grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. On vous fait gagner des places de ciné cette semaine pour aller voir.
Clic, clic, pan, pan, pan.
Vous entendez la musique du film, doublé par Tom Lefebvre.
C'est Yann's.
Un petit truc en plus, c'est sorti mercredi. C'est un beau film, nous disait Stéphane Boutsock. C'est avec Artus. C'est deux Artus également. C'est le premier film qu'il réalise. Il y a aussi Clovis Cornillac et Alice Belaïd. Pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3-2-1-0.
RTL.
Notre question du jour ce matin, alors qu'un bassin de stockage des eaux usées est inauguré aujourd'hui à Paris-Austerlitz, est-ce que vous seriez prêt à vous baigner dans la Seine? C'est non, c'est massivement non. Vous dites non à 91%. Ils sont pas nombreux, hein, les auditeurs prêts à aller se mouiller dans la Seine. Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL.
Oui, c'est aussi ce que vous dites sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Hein, Evelyne, même pas en rêve. Quelle idée, lui répond Marie-Laure. Jojo, il attend quand même que notre président Emmanuel Macron se baigne et après il verra s'il ira ou pas. Millie nous dit, bon, il y a quand même des endroits bien plus idylliques pour se baigner. Il y en a un qui accepte. C'est Franck qui nous dit, même si je sais pas nager, j'irai avec ma bouée JO 2024 ou avec un gilet de sauvetage, mais j'irai.
Mais il est fou, ce Franck. Marina, vous seriez prête à aller vous baigner?
Absolument
dans la
Seine? Absolument pas. Vu l'état de la Seine, mais alors pas du tout. Quoi. Je tiens à ma vie et à ma peau.
Mais vous êtes déjà sur Seine pour nous donner la météo?
Oui, mais je vais pas plonger.
En tout cas, vous pouvez replonger dans la pluie qui tombe, hein, parce que les orages sont passés, mais alors il pleut. Hein.
Exactement. On a des averses assez nombreuses là, de la Corse à la Provence, Alpes-Côte d'Azur, de l'Occitanie au Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, c'est là où il pleut le plus. Mais enfin, il y a pas mal de pluie aussi en Basse-Normandie, quelques averses en Aquitaine ou sur le Grand Est. Concernant le gros amas orageux qui est passé hier soir de la Bourgogne à l'Île-de-France, à la Picardie, à la Normandie en ce moment, il est sur le sud de l'Angleterre, mais il laisse derrière lui quand même pas mal de pluie. Le temps sera perturbé comme ça toute la journée sur quasiment tout le pays. Une exception, je vous en parle juste après. Pour les impacts de foot, il peut y en avoir encore quelques-uns vers le Grand Est ou encore l'ouest de la Corse, mais de façon très localisée. On aura de la neige aussi en montagne, que ce soit sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Alors, là où c'est un peu moins moche, Bretagne, pays de la Loire, c'est-à-dire que vous avez des éclaircies et beaucoup moins d'averses. Et ce temps-là, un petit peu plus clément, concernera cet après-midi aussi le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Vous l'avez compris, c'est la façade atlantique où ce sera un peu plus calme dans l'après-midi. Partout ailleurs, on conserve ce temps bien perturbé, avec des températures, oulala, qui vont bien baisser, sauf dans le sud-ouest, ça a baissé hier, mais dans le sud-ouest ça va remonter, mais sinon partout ailleurs ça va baisser, seulement 12 degrés à Besançon et à Lyon au meilleur de la journée, 14 à Paris et à Marseille, 15 degrés pour Nevers et Toulouse, il fera 16 à Nantes et à Limoges, 18 à Lille, 19 à Strasbourg et Bastia.
Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30.
RTL Matin, Jérôme Florent.
Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
On en parlait avec ce vigneron il y a quelques minutes, des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. La région de Chablis constate les dégâts ce matin après les violents orages d'hier soir.
Un gros coup dur donc pour les agriculteurs, deux semaines après un épisode de gel. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé un agent chimique en Ukraine. Et puis le football, le Vélodrome à guichet fermé ce soir à Marseille pour la demi-finale de Ligue Europe contre l'Atalanta Bergame. Ce sera à vivre sur RTL et M6.
Après ce journal RTL autour du monde aux États-Unis, une centenaire enregistrée par une compagnie aérienne comme étant un nourrisson. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive.
RTL Matin.
La vigilance orange est donc levée ce matin dans le pays, mais pas les inquiétudes. Les violents orages ont traversé une partie de l'Île-de-France, de la Normandie, de la Picardie et de la Bourgogne cette nuit. Et les grêlons n'ont pas épargné les exploitations agricoles comme celle de Luc Dupaquier. Cet éleveur bovin à Vèvres, en Côte d'Or, répond Hermine Leclèche.
On a entendu des fracas sur les tôles, tout, et c'était les balles de ping-pong qui tombaient sur les tôles. Très impressionnant, la cour a blanchi, de l'eau, beaucoup de vent, impossible de sortir dehors, on s'est dépêché de mettre les véhicules à l'abri, tout, c'est à faire peur. On est déjà assez abattu là pour l'instant, donc les bêtes ont été affolées dans les bâtiments. Il y a eu un peu de dégâts matériels à l'intérieur des bâtiments, des barrières, des tordues, des bêtes qui se sont bourrées dans des barrières. On aura déjà des pertes sur tout ce qui est céréales d'hiver, surtout les orges d'hiver pour les bêtes. Je pense qu'on a perdu une grosse partie. On va faire appel aux experts et on va voir ce que les experts vont nous dire. Grosse partie de la moisson est faite.
Et en Île-de-France, cette fois, en 2 heures, au nord et à l'est de Paris, il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie d'un mois de mai. Des vols pour Roissy et Orly ont même dû être déroutés dans la soirée. Et c'est dans ce contexte que les syndicats agricoles seront justement reçus ce matin par Emmanuel Macron pour discuter des mesures promises par le gouvernement pour répondre à la crise du secteur. Le président s'y était engagé au moment du salon de l'agriculture.
Cette question agricole est notamment l'un des thèmes majeurs de la campagne des élections européennes.
Et un peu plus d'un mois du scrutin, RTL organise dimanche le tout premier débat des 7 têtes de liste dont le parti est déjà représenté au Parlement européen avec un grand jury spécial européenne, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, 7 têtes de liste pour un grand débat sur les antennes de RTL, Paris Première et de la chaîne parlementaire. Et pour la première fois, le président du RN, Jordan Bardella, souvent accusé par ses adversaires de se défiler, sera bel et bien présent dans nos studios. Pour le pousser dans ses retranchements, par ordre alphabétique, Manon Aubry de la France Insoumise, François-Xavier Bellamy de LR, Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, Valérie Ayer, Besoin d'Europe, macroniste, Marion Maréchal, Reconquête et Marie Toussaint, les écologistes. Le débat va s'articuler autour des 4 défis de l'Europe, sa sécurité, c'est-à-dire la défense européenne, sa transition écologique, stop ou encore, quelle solution pour ses frontières? Et enfin, comment garantir sa souveraineté économique, ne pas perdre la guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis? Bref, de quoi largement occuper les 2 heures que nous leur avons réservées.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, grand jury spécial européenne, dimanche, donc de midi à 14h sur RTL et Paris Première et à 18h sur la chaîne parlementaire. Hier, Marine Le Pen a, elle, appelé à infliger Emmanuel Macron la plus cinglante sanction électorale possible aux européennes. Le Rassemblement national a dévoilé les 34 premiers colistiers de la liste de Jordan Bardella pour le scrutin. De son côté, Raphaël Glucksmann n'a pas pu prendre part au cortège du 1er mai à Saint-Étienne. Le candidat socialiste Place Publique a dû être exfiltré après avoir reçu des jets de peinture. Il a dénoncé l'œuvre de militants insoumis notamment, mais seuls les jeunes communistes de la Loire ont revendiqué les faits photos à la pluie. Au total, 121 000 personnes ont défilé dans les cortèges du 1er mai selon le gouvernement, plus de 200 000 d'après la CGT.
Aux Antilles, l'équipage d'un navire hors bord de Saint-Martin, toujours recherché ce matin.
Il a fui le navire où 1,8 tonne de cocaïne a été saisie. Cela représente une quarantaine de millions d'euros, de quoi remplir un camion de gendarmerie. La France, désignée pour la 5e année de suite pays le plus attractif d'Europe, près de 1200 annonces de projets d'investissement étrangers l'an dernier. Le Royaume-Uni et l'Allemagne complètent le podium.
Comment expliquer ces bons résultats d'ailleurs? Quels sont nos atouts en France? Ce sera la chronique de Martial You tout à l'heure dans la tablée du petit matin, juste avant 7h.
Les États-Unis accusent la Russie d'avoir eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes. Une violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Washington annonce dans le même temps de nouvelles sanctions contre des entreprises ou des personnes russes ou étrangères.
En football, Paris devra obligatoirement gagner mardi prochain pour aller en finale de Ligue des Champions.
Le PSG battu 1-0 à Dortmund hier soir en demi-finale aller. Le club n'a pas marqué dans la compétition pour la première fois de la saison. Match retour donc au Parc des Princes mardi prochain. Ce soir, Marseille va tenter de s'engager vers la finale de Ligue Europe. L'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame à 21h pour la troisième demi-finale, sa troisième demi-finale européenne en 7 ans. Rencontre qui se jouera à guichet fermé avec des supporters venus de toute la France, Hugo Hamelin.
Oui, ils sont descendus malgré la pluie, malgré des tickets dont le tarif a explosé au marché noir. Troisième demi-finale européenne en 7 ans pour l'Olympique de Marseille. Ça ne se rate sous aucun prétexte, selon Julien, venu de Touraine.
Il faut qu'ils nous fassent rêver. On a eu une saison très compliquée. C'est vraiment super important pour toute la ville, mais il y a des supporters de partout dans la France. Là, j'ai croisé des gens d'Avignon, j'ai croisé des gens de Lille, de Paris. Il y en a de partout. La ville est remplie et ça va être dingue. Ça va être complètement dingue.
Le président du club rêve encore plus grand, d'être à jamais le premier en France a décroché cette Ligue Europa, Pablo Longoria.
On est content. On sait comment c'est important pour nos supporters, pour tout le monde à l'intérieur du club. C'est donner l'opportunité potentiellement de gagner un titre. Ça, c'est quelque chose que ça fait des plaisirs.
Ici, pas de demi-mesure. Même le rappeur Jul, sponsor officiel de l'OM, a lui aussi posté son petit message sur Internet.
Pour toi, Marseillais, qui ne vis jamais à moitié, bienvenue en demi.
Sur 7 demi-finales au cours de son histoire, l'Olympique de Marseille s'est qualifié 5 fois en finale.
On espère bien qu'ils vont y aller à nouveau. Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille, que vous retrouvez ce soir aux commentaires de cette OM Atalanta. Émission spéciale dès 20h sur RTL et match à suivre également sur M6. En basket, Monaco s'incline pour son 3e match de quart de finale du championnat d'Europe contre Fenerbahçe. Défaite 89-78 hier soir. La Roca Team est donc pour l'instant menée 2-1 et essaiera d'inverser la tendance demain pendant la 4e manche. Handball, Montpellier vainqueur à l'aller se déplace en Allemagne à Kiel à 18h45 pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Paris de son côté va tenter de se refaire à Barcelone à 20h45.
C'est l'une des toiles les plus célèbres au monde et elle fait son retour aujourd'hui dans les salles d'exposition du Louvre.
La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Cette femme au sein nu qui brandit le drapeau français sur une barricade. La toile a eu droit à un petit toilettage et cette restauration a permis de découvrir qu'elle avait au départ une toute autre couleur, Laurent Marsic.
On connaissait cette liberté baignée dans du jaune. Mais à l'origine, raconte Laurence Mignot, une des deux restauratrices, il n'en était rien.
Les vernis jaunes dégradés forment comme un film photo. On a découvert plein de petites touches qui n'étaient pas visibles, des détails pathétiques, des coulures de sang, des choses comme ça. Comme le tableau était recouvert d'une couche jaune, on avait du mal à différencier quels étaient les vrais jaunes des jaunes qui étaient liés au vernis. Vous avez évidemment cette robe jaune. On voyait bien qu'il y avait un petit dégradé qui était plus jaune en bas et moins en dessous avant avec le vernis. Mais maintenant, on se rend compte qu'il a peint de façon très différente. En fait, il a peint dans un premier temps grise et c'est seulement dans un second temps il est venu appliquer des touches jaunes assez vives. Ça fait comme des éclats jaunes.
Un tableau iconique pour nous, mais pas vraiment pour les contemporains de Delacroix, car le public, en découvrant cette liberté à l'époque, la compara à une prostituée, en sueur, musclée comme un homme. Pire, elle a des poils sous les bras. Ce tableau n'est entré au Louvre qu'en 1875, 45 ans après avoir été peint.
Laurent Marsic du service culture de RTL. Et sur RTL.fr, vous retrouvez un dossier complet passionnant sur la restauration du tableau avec un avant-après. C'est assez remarquable.
Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Beaucoup de messages ce matin sur les orages, évidemment, Marina.
Oui, Valérie, elle a eu quelques coups de tonnerre hier soir à Orbec, en Normandie, nous signale-t-elle. Sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Pénélope est à Champigny-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne. Alors, elle a quand même entendu quelques grondements hier, mais pas plus parce qu'elle a très bien dormi, elle n'a pas trop réveillé. Catherine, elle nous dit c'est la fête de la grenouille en ce moment dans le nord Ardèche, il pleut avec 10 degrés. Elle a une pensée solidaire aux viticulteurs et à tous ceux qui ont subi les orages de cette nuit. Et puis on va terminer par ce message de Nicolas, à qui on va souhaiter une bonne journée. Nicolas, il part ce matin pour 2 jours au parc Astérix. C'est un séjour qu'il a gagné avec RTL, avec l'émission du soir. Donc on est ravis pour lui et on lui souhaite tout le bonheur du monde pour cette journée.
Et puis il y a beaucoup de bonnes choses à faire au parc Astérix, il y a des super attractions. Hein.
Ah, je vous imagine bien dans les manèges.
Ah oui, mais moi j'adore ça.
Vous avez les cheveux en l'air.
Oui, c'est ça.
Même sans aller dans un parc.
C'est ma fête. Tiens, justement, parlant de fête, à l'instant, ce message de Guillaume qu'on avait déjà eu tout à l'heure sur le groupe Facebook de l'émission. J'ai oublié de dire, je souhaite un joyeux anniversaire à Poupouille et au Cowboy de Ménil-la-Horgne. Voilà, le
Poupouille
message.
Et le Cowboy.
On les embrasse. Est passé, cher Guillaume.
RTL autour du monde.
Avec un nouveau format depuis lundi, un reportage suivi d'un coup d'œil dans la presse. Mais d'abord, cette histoire aux États-Unis. Une femme de 101 ans enregistrée à bord d'un vol comme un bébé. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, tout ça à cause d'un problème informatique, Karine Hauten.
Oui, vous imaginez la surprise au comptoir de l'aéroport. Ils s'attendent à un bambin d'un an, un an et demi, et ils se retrouvent face à cette vieille dame souriante, mais bien embêtée tout de même par ce bug. Alors qu'elle est née en 1922, le système de réservation d'American Airlines actualise automatiquement sa date de naissance à 2022. Et ça lui cause bien des soucis. Elle qui prend l'avion plusieurs fois par an, notamment pour échapper à l'hiver. Le plus gros inconvénient, eh bien, la compagnie annule à chaque fois sa demande de fauteuil roulant, puisqu'elle considère que cet enfant peut être porté. En revanche, pas question pour Patricia de bénéficier d'un billet à prix réduit, car American Airlines vend les sièges pour bambins de moins de 2 ans au même prix que le siège pour adultes sur les vols intérieurs.
Karine Hauten, correspondante de RTL aux États-Unis. On reste aux États-Unis avec notre coup d'œil dans la presse ce matin, et c'est le journal USA Today qui a attiré notre attention avec cet article passionnant qui raconte les coulisses du procès Trump en ce moment à New York. L'ancien président est jugé pour avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence d'une ancienne actrice porno, Stormy Daniels. Ça dure depuis des semaines. Et le journal nous raconte donc les choses de l'intérieur, parce que ce procès-là, il n'est pas filmé, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Et c'est dans un cadre des plus austères que le Donald Trump, amateur de bling-bling, se rend tous les jours. Le palais de justice de Manhattan est un bâtiment vieillissant où beaucoup de verrous de toilettes ne ferment pas, précise le journal. La cafétéria, elle n'a pas de chaise, il n'y a pas de fenêtre. Elle propose des sandwichs tristement emballés sous cellophane. Et dans la salle d'audience, au store baissé, le chauffage et la clim sont hors d'âge. Il y fait un froid de gueux. La plupart des journalistes gardent leur doudoune. Donald Trump a qualifié l'endroit de glaciaire. Ce qui ne l'empêche pas de s'assoupir. USA Today note que l'ancien président assis entre ses avocats a les yeux fermés. La plupart du temps, il semble dormir. Il faut dire que même pour lui, l'accro aux réseaux sociaux, le téléphone portable est interdit. Il n'a rien à faire. Les journées passent longues et ennuyeuses. Melania, sa femme, ne s'est pas montrée une seule fois. Il faut dire que ce procès aborde des soupçons d'infidélité de son mari et de ses liaisons qu'il aurait eues alors qu'elle était enceinte de leur fils Baron. Tout cela est un peu glauque. Le procès secret de Trump vu de l'intérieur, c'est à lire dans USA Today. 5h42 sur RTL, nous parlons de baignade dans la Seine. Est-ce que vous seriez prêt à vous baigner dans la Seine? Vous dites non à 91%, mais on a trouvé un baigneur.
Ah oui, ah.
On a trouvé un baigneur, il est avec nous au 3210.
RTL Matin, l'Angle Écho.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai. Prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'Angle Écho à 7h35.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et dans l'actualité, ces orages violents qui ont traversé une partie du pays hier soir, ça a commencé en Bourgogne en touchant les vignobles de Chablis. Avant d'atteindre l'Île-de-France et de créer des perturbations dans les aéroports, plusieurs avions devant atterrir à Roissy et à Orly ont été déroutés. Dans l'Yonne, ce matin, on redoute des dégâts importants sur les vignes Jean-Paul Duru et vigneron à Chablis.
Les parcelles qui étaient toutes blanches, je doute qu'il reste grand-chose. Moi, j'ai des confrères dont j'ai eu des échos qui ont perdu déjà à 100% certaines parcelles. Je me suis retrouvé dans un orage de grêle considérable. J'ai roulé sur un filet de grêlons. La route était toute blanche. Les vignes étaient toutes blanches. J'ai jamais vu ça personnellement. Hein.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à témoigner en direct au 3210 ou même sur le répondeur RTL que vous trouvez sur notre site rtl.fr et l'appli RTL.
RTL.
Notre question du jour ce matin, alors qu'un bassin de stockage des eaux usées est inauguré tout à l'heure à Paris-Austerlitz, il pourra limiter la quantité d'eau des égouts déversée dans la Seine avant les JO. Est-ce que vous seriez prêt à vous baigner dans la Seine? Vous dites non à 91%. Mais on a trouvé quelqu'un qui est...
Ah ben oui, qui s'est baigné plusieurs
restants.
Fois dans la Seine. Bonjour Laurent Neuville.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes baigneur, vous avez été dans... Vous avez participé aux JO déjà, non?
Oui, effectivement, je suis un ancien nageur de haut niveau.
Voilà, et donc la Seine, l'eau de la Seine ne vous fait pas peur?
Non, bah non, puisque je me suis baigné il y a maintenant un peu moins de 2 ans, et puis je suis encore là, donc tout va bien.
Vous ne brillez pas la nuit?
Non, pas encore, non. Écoutez, non, le plus difficile, c'est de se lever à 5 heures, c'est tout.
Ah mais écoutez... pourquoi? C'était une baignade très tôt?
Non, c'est pour nous parler.
Non, je plaisante, c'est juste l'horaire du matin.
Alors, donc, cette eau, elle est quand même pas très propre, Laurent?
Bah non, mais comme toutes les zones de nos cours d'eau, voire même la mer à certains endroits, c'est pas très propre.
Mais vous avez une protection particulière?
Non, pas particulièrement. Pas bien sûr, on s'amuse pas à boire des litres d'eau, mais comme tout nageur, quand on va se baigner, on n'a pas la bouche grande ouverte. Bien sûr, on a de l'eau dans la bouche, mais on boit pas d'eau.
Et à quelle occasion précisément vous vous êtes baigné? Vous dites c'était il y a 2 ans.
En fait, c'était pendant les Journées Olympiques organisées par la ville de Paris. On a été invité avec plusieurs nageurs à venir faire un petit rond dans l'eau pour démontrer que bien les travaux mis en place commençaient à payer tout simplement.
C'était à quel niveau?
Alors c'est au niveau du Pont-Marie, c'est là où il y aura une des baignades dès 2025.
Et vous serez présent tout à l'heure à l'inauguration du bassin d'Austerlitz?
Oui, effectivement, j'ai été invité par la ville de Paris.
Et alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui disent non, moi jamais, la Seine?
Bah écoutez, si on aime nager, si on aime se baigner, je pense que faudra venir essayer dès que les bassins seront en place, hein, puisque pour cette année, à part les nageurs de haut niveau dans le cadre des JO et les triathlètes, personne n'aura encore l'occasion de pouvoir s'y baigner.
Alors expliquez-nous le rôle de ce bassin de stockage des eaux usées. Il va faire quoi exactement?
Eh bien en fait, c'est un bassin de rétention, c'est-à-dire que toutes les eaux les eaux pluviales et éventuellement peut-être aussi les eaux des égouts pour éviter qu'ils débordent vont se rejeter dans cet immense bassin et vont être traitées et rejetées progressivement ensuite dans la Seine.
On est surpris qu'il n'y ait pas eu ce genre de dispositif avant.
Écoutez, c'est une infrastructure énorme. Hein. Je pense que Paris doit être un peu la seule ville maintenant à disposer de ce type de bassin.
Ah bon, ça n'existe pas sur la Tamise, par exemple?
À ma connaissance, ça n'existe pas. Souvent, ce qu'il y a, c'est des bassins. Il y a un traitement, ou en tout cas, c'est des bassins tampons, mais un bassin d'une infrastructure aussi importante que celle qui va être inaugurée aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe pas.
C'est très intéressant ce que vous nous racontez, et j'imagine que les auditeurs qui vous écoutent vont peut-être changer d'avis, en tout cas, parce que jusqu'à présent, ils sont assez sceptiques, Tom.
Oui, c'est en tout cas ce qu'ils disent sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Quand on pose la question, Nadia répond « Burk, sûrement pas ». Thierry nous dit « Quand on sait le nombre d'égouts qui se jettent dans les mers et les gens qui vont s'y baigner, Sylvain estime que le gouvernement doit nous montrer l'exemple, Emmanuel Macron doit aller se baigner et après on verra ». Alors Jean-Claude lui nous dit qu'il est prêt, mais alors la tête hors de l'eau, il a vraiment pas envie de boire la tasse.
Si on boit l'eau de la Seine, Laurent Neuville, on risque quoi?
Qu'est-ce qu'on risque? Une gastro si vraiment l'eau est dégradée, mais il faut aussi ce que les gens comprennent, c'est qu'au cas où la qualité d'eau sera dégradée, il y aura un peu le même phénomène que celui qu'on a vécu l'année dernière dans le cadre des test events, c'est-à-dire que les baignades seraient fermées, comme ça existe aussi partout. Hein. Il y a plein d'endroits où malheureusement il peut y avoir des incidents et donc les baignades sont fermées temporairement, ça arrive sur nos plages tous les étés.
Est-ce qu'il y en a autour de vous qui ont refusé de se baigner, comme vous disiez que vous aviez été sollicité?
Non, parce que on va dire que je suis dans un cercle où où il y a des nageurs et aussi on fait confiance et puis on regarde aussi les résultats des analyses. On n'est pas quand même déjà c'est interdit quand la qualité d'eau est mauvaise et puis on va pas aller baigner dans des endroits où on sait que on a un risque, hein, où il y a une risque, il y a un risque important d'attraper effectivement une gastro dans le meilleur des cas.
En tout cas, Jacques Chirac avait promis de se baigner dans la Seine, il ne l'a jamais fait. Emmanuel Macron a promis de le faire, vous pensez qu'il le fera ?
Ça, malheureusement, je suis pas assez
proche. Je suis pas devin.
Mais j'espère qu'il le fera, j'espère qu'il le fera, qu'il démontrera, comme fera Madame Hidalgo également cet été-là, dans les prochaines semaines, comme elle l'a annoncé.
Bah écoutez, merci beaucoup Laurent Neuville d'avoir pris le temps et de vous être levé très tôt parce que oui, vous participez à cette inauguration tout à l'heure. Ce sera à quelle heure d'ailleurs?
Je crois que c'est à 9h30.
Voilà, donc voilà, vous avez le temps de vous recoucher peut-être.
Oui, on va se reposer encore un petit peu avant de reprendre la route d'Austerlitz.
Merci beaucoup,
bonne journée à vous.
Bonne journée également. Merci, au revoir.
Il est 5h49 sur RTL.
RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
Et c'est le moment de retrouver Aline Perraudin et Olivier Dauvert. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Avec le débat de la semaine, ce matin, on va s'intéresser aux circuits courts. Sont-ils vraiment meilleurs et intéressants? Mieux pour les producteurs, les consommateurs? Est-ce que les produits sont forcément de meilleure qualité? On en parle juste après ça.
Éric Silvestro, RTL Foot.
Événement sur RTL ce soir, vivez en intégralité la demi-finale aller de Ligue Europe entre l'Olympique de Marseille et les Italiens de l'Atalanta Bergame. Rendez-vous au Vélodrome dès 20h avec toute l'équipe de RTL Foot.
RTL Foot. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Avec le débat de la semaine, Aline Perraudin et Olivier Dauvert, les circuits courts sont-ils vraiment meilleurs et intéressants? Alors on dit souvent que c'est mieux pour le consommateur, que c'est mieux pour le producteur parce qu'il évite les intermédiaires. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, de démêler le vrai du faux. D'abord, comme toujours, de quoi parle-t-on précisément? Tiens, Olivier, le circuit court, Kesako.
Alors, il y a une forme d'amalgame qui est fait entre circuit court, producteur, magasin de quartier, épicier. Ouais. Le circuit court, en fait, sa définition, c'est pas une définition qui est géographique, que le produit serait élaboré à côté de chez moi. Non, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intermédiaires entre le moment où il a été fabriqué et le moment où moi je vais l'acheter. Ça veut dire que dans l'absolu, un produit peut très bien avoir été fabriqué, élaboré, produit à Nice, vendu à Brest, s'il n'y a pas eu d'intermédiaire entre celui qui l'a fabriqué et celui qui le vend, ça s'appelle un circuit court. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas nécessairement ni un produit local, ni un produit artisanal. C'est un produit qui a évité les intermédiaires, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour démarrer.
Donc, circuit court et local, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Ouais. Alors, parfois, ça se superpose, il faut le dire, évidemment, parce qu'il y a d'ailleurs une forme d'intérêt évident à consommer localement ce qu'on a produit localement sans intermédiaire. Mais il n'y a pas cette automaticité que l'on soupçonne parfois de manière un peu facile.
Alors, est-ce que c'est meilleur, Aline? A priori, c'est frais, c'est direct vendeur-consommateur, donc c'est bon. C'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'on a raison de penser ça?
Alors, on a quand même raison, parce que ce qu'on achète en circuit court, on achète des fruits et des légumes, on achète du pain, de la viande, du miel. Donc, déjà, ce sont des produits souvent bruts ou pas beaucoup transformés. Et honnêtement, c'est meilleur que des produits ultra transformés qu'on va trouver à l'hypermarché. C'est une bonne chose. En plus, les producteurs de circuit court, ils peuvent cultiver des variétés, par exemple, de fruits et de légumes, qui ont des propriétés pour leur goût, leur valeur nutritive et moins pour leur qualité à pouvoir résister par exemple à des transports longue durée ou à être stocké longtemps.
Moins de pesticides.
Ça peut être des variétés plus intéressantes pour leur valeur nutritive.
Vous confirmez, Olivier?
Alors, oui, parce que par principe, dès lors qu'on produit sans pesticides, sans produits phytosanitaires, ou en tous les cas avec très peu, on fait un produit plus qualitatif. Mais moi, je conteste toujours cette forme d'opposition qu'il y a entre ce qu'on appelle d'un côté la grande distribution qui ne ferait que des circuits pas courts, et de l'autre le magasin bas de chez moi qui ferait que des circuits courts. Le rayon fruits et légumes de votre hypermarché, c'est le royaume des circuits courts pour une bonne partie de l'offre. Oui. Vous imaginez quand même pas que les salades qui sont vendues dans un hypermarché à Rennes elles ont poussé à Lyon. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, historiquement, on a autour des grandes villes ce qu'on appelle les ceintures maraîchères. Les ceintures maraîchères, c'est quoi? Ce sont des maraîchers qui produisent les salades, les épinards, bref, tous ces légumes un peu fragiles, et qui sont par principe vendus en circuit court, c'est-à-dire c'est le maraîcher qui livre directement l'hypermarché. Alors, soit c'est sur son entrepôt, soit c'est sur le magasin, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, en fait, il ne faut pas chercher à opposer tout le temps le circuit court et la grande distribution. Il y a effectivement des produits en circuit long dans la grande distribution, mais il y a aussi beaucoup, et je vous en ai cité un, la salade, c'est pas un petit produit en grande distribution. Ah oui.
Mais le circuit court, il a quand même une vertu, c'est de faire se rencontrer le consommateur et le producteur.
Tout à fait.
Et ça n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix, on peut même aller, par exemple, cueillir soi-même ses fruits. Il y a vraiment beaucoup plus de transparence, on peut demander, on peut voir comment c'est cultivé, ouais. On peut voir comment c'est élevé, notamment un animal, et c'est quand même très important.
Et ça, on peut pas en supermarché, Olivier.
Non, mais attention, il faut pas imaginer que même l'épicier en bas de chez soi, dans ces cas-là, il n'est pas en circuit court. Dans ces cas-là, si c'est votre définition, Aline, ça veut dire que pour être en circuit court, il faut que ça soit le producteur et le vendeur soient le même. C'est quand même pas très pratique parce que si tous les Parisiens vont à la campagne le samedi faire leurs courses, bon courage sur l'autoroute A13.
Oui, vous avez raison, mais avec les AMAP, il n'y a quand même pas beaucoup d'intermédiaires et donc on a une meilleure information quand même d'où viennent les produits. Et puis parfois dans les hypermarchés, il y a quand même, si on voit plus de, par exemple, de produits biologiques qui viennent d'Espagne et pas vraiment près de chez soi ou à une centaine de kilomètres. Donc le circuit court, ça permet quand même, ça favorise une agriculture biologique ou qui utilise moins de pesticides.
Pour les agriculteurs, c'est quand même un inconvénient. Je dirais, mais là vous allez me confirmer ou infirmer, parce qu'on peut pas être à la fois producteur et vendeur, ou forcément on est moins vendeur que producteur quand on vend, ou moins.
Alors honnêtement, on n'a pas beaucoup d'exemples de coopératives ou de producteurs agricoles qui sont très très bons dans le fait de distribuer, ouais, et de vendre eux-mêmes. Parce que ben, finalement, ce n'est pas le même métier. D'ailleurs, on a plutôt eu des échecs quand on voit des coopératives qui ouvrent des magasins que l'inverse. Donc, mais cela dit, pour les agriculteurs qui, pour une partie de leur production, vendent directement, ils en sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à le vendre tout simplement plus cher que ce qu'ils vendraient à la centrale d'achat de l'hypermarché ou du grossiste pour Rungis, par exemple. Donc en réalité, quand un producteur fait de la vente directe, il améliore son ordinaire. Et tant mieux pour lui.
Pour conclure, est-ce que c'est un modèle généralisable?
Alors, non. Pour l'instant, c'est quoi? Ça correspond à peu près 10% des achats alimentaires en France. Donc, ça augmente, mais ça va être difficile de le généraliser quand même. Hein.
Non, c'est pas généralisable à mes yeux pour deux raisons. D'abord, parce que la pression qu'il y a sur le pouvoir d'achat et sur les prix impose une pression de masse pour une partie de nos concitoyens qui ne peuvent pas faire mieux que de s'approvisionner sur des produits, entre guillemets, dits industrialisés. Et puis, la deuxième raison, elle est strictement géographique. Si chacun d'entre nous, on doit demain aller faire nos courses dans une dizaine de fermes pour la viande, une pour les fruits, une pour les légumes,
c'est
une
le week-end pour, qu'il
etc.
faut,
etc. Ouais. Vous imaginez le bazar que ça serait autour des villes si chacun le samedi prend sa voiture pour faire le tour des fermes. Donc c'est juste irréaliste, y compris géographiquement parlant.
Et d'un point de vue écologique, ce serait pas tellement rentable non plus là. Hein.
Merci beaucoup à tous les deux, Aline Perraudin, Olivier Dauvert. On se retrouve lundi.
À lundi.
Et puis Olivier, on se retrouve tout à l'heure, à 9h.
Avec Julien Courbet.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Et Philippe Cavrivière, on le retrouve maintenant en rediff et puis en direct juste avant 8h tout à l'heure. Hier, il revenait sur le film Un petit truc en plus, 2 et avec Artus.
Un petit truc en plus, et c'est pas le biopic d'Amanda Lear. Hein. Je le dis pour les fans d'Amanda dont je suis. Allez voir ce film incroyable. Il y a Clovis Cornillac, Alice Belaïda, ils sont formidables. Et il y a des copains à Artus et à moi. J'ai été un peu vexé parce que j'ai même pas.
Vous n'êtes pas dans le film.
Un copain, non. Je suis pas dans le film. Ah. J'ai même pas passé le casting. Et moi, je lui avais demandé à Artus et il m'avait laissé ce message.
Oui, mon filou, c'est Artus. Écoute, j'ai bien eu ton message. Honnêtement, si j'avais dû te prendre. Enfin, voilà, c'était compliqué parce que soit je voulais des acteurs en situation de handicap, ce que tu n'es pas. T'es très con, mais c'est pas considéré comme un handicap pas assez, je pense. Soit des bons acteurs. Voilà, et comme tu n'es malheureusement aucun des deux, j'ai préféré passer mon tour avec toi. Je t'embrasse, à bientôt pour un autre projet.
Voilà, c'était un peu violent. Comme il m'a pas pris, je vais citer les autres films qui sortent aujourd'hui. Oui. Alors, il y a le tableau volé avec Alex Lutz, c'est formidable. Mm-hmm. The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et il y a plein d'autres films.
D'accord, ta gueule, filou, on s'en fout. Non, il faut aller voir un petit truc en plus. Voilà, un petit truc en plus, c'est tout. Et t'arrêtes de dire n'importe quoi. Sinon, je raconte la fois où on était tous les deux tout nus et que tu m'as dit, oh là, c'est quoi ça, je peux jouer avec. Et qu'après, moi, j'ai pas voulu.
Alors c'est faux, il ment. C'était bien sûr médical. Il avait un petit bout de peau qui dépassait. C'est Sylvain. Non,
dans le film, il y a une scène comme ça sous la douche.
Il y a une scène sous la douche. Oui. Le film est incroyable, c'est drôle, c'est émouvant. Allez-y, sinon on rembourse.
C'est la bande son.
Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h. Marina, les orages sont passés, mais là il pleut fortement.
Oui, les averses sont nombreuses là en ce moment sur la Corse, la Provence-Alpes, Côte d'Azur, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes. Des averses aussi vers la Franche-Comté, quelques averses. Alors encore avec quelques impacts de foudre pour le Grand Est, mais c'est très faible, très localisé. C'est pas du tout ce qui est passé hier soir. Et puis on a aussi des averses vers l'Aquitaine. Bref, un temps bien perturbé encore aujourd'hui sur une grande partie du pays. Ça va rester comme ça, nuageux, pluvieux toute la journée sur les trois quarts du pays, les trois quarts est. Je vous donne la façade ouest qui fera exception aujourd'hui un petit peu plus tard, puisqu'on attend de la neige sinon sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes, aux alentours de 1300-1500 mètres en fonction des massifs. On peut avoir encore quelques impacts de foudre cet après-midi sur le Grand Est ou encore l'ouest de la Corse, mais ça reste de façon localisée, avec donc pour les autres des nuages et des averses, sauf, je vous le disais, sur la façade atlantique où on va aller vers le mieux. Déjà ce matin, de la Bretagne au Pays de la Loire, vous avez quelques éclaircies. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des passages nuageux et une averse, mais vous, c'est quand même mieux que le reste du pays. Et cet après-midi, ce temps un petit peu plus agréable concernera aussi le Poitou-Charente et l'Aquitaine, où ce matin, il y a des averses, mais cet après-midi, il y en aura beaucoup moins, avec quelques éclaircies. Concernant les vigilances, alors vigilance orange orage, c'est terminé, mais on a toujours le Calvados qui est en vigilance orange crue, parce qu'il y a certains cours d'eau qui débordent, et d'ailleurs, il y a encore des averses qui traînent, notamment sur l'ouest du département, ce matin.
Les températures.
Alors, les températures, elles vont généralement baisser une fois les orages passés, hein. Ce seront des températures en baisse.